et le miroir brûla, portrait conté de Marguerite Porrette par Charlotte Joussaume aux éditions du Cerf. Elle était fille de la Ronelle, cet affluent de l'Escaut qui traversait sa ville de Valenciennes. Elle aimait se baigner à la douce saison dans ses eaux, sortir des murs d'enceinte et gagner la campagne, rire d'enfance avec ses compagnons de jeu, courir vers le soleil sous les saules argentés, parler aux truites, aux libellules, aux ragondins, aux grues cendrées. Se cacher dans les herbes hautes et là, pendant des heures, écouter la rivière. La Ronelle murmurait deux secrets. Elle chantait que ses eaux, qui coulaient sous les ponts, prenaient leur source dans la forêt. Que des chênes centenaires, un troupeau de chevaux, un ange, une hirondelle, avait versé des larmes pour elle. Elle chantait pareillement que ses eaux se perdaient en aval, dans la mer, que leur douceur se faisait salée. Près d'elle, Marguerite rêvait de s'écouler, de s'abandonner à la force du courant, de se jeter dans des bras grands ouverts, suivre le cours et les méandres de sa vie. Elle pressentait que l'attendait ailleurs un très loin, plus proche et plus intime encore que les rues de sa ville. Sa destinée sera de devenir eau vive, de répondre à l'appel du large. Cet appel, elle le retrouvait dans l'éclat du regard des marchands, pèlerins et vagabonds qui gagnaient Valenciennes. Ils avaient traversé les plaines, franchi cols et montagnes, sillonné les mers, entendu et parlé d'autres langues. Ils s'interpellaient sur les places de la ville et apostrophaient les passants pour déverser sur eux tout un flot de paroles. Assise, au milieu des badauds, Marguerite prêtait l'oreille à ceux qui revenaient de la mer du Nord. Ils avaient sur les lèvres des histoires de grands vents, de navires dématés, de marins secourus. Ils semblaient tout connaître de la mer avec son silence, ses calmes et ses tempêtes. Ils avaient quitté la terre ferme, le connu, pour explorer cette mer vague, l'inconnu. Marguerite rêvait de cet océan débordant, sans limite. Les jours de marché, elle suivait les charrettes qui entraient dans la ville et sentait le poisson. Elle respirait à plein poumon ce parfum mystérieux de la mer. Elle observait, au milieu des étals de draps, de laine, de poules et de lapins, ces créatures aux yeux vides et aux écailles miroitantes. Ces poissons, sur leur lit d'algues vertes, avaient nagé dans des eaux plus profondes que celles de la Ronelle. Leur chair avait un goût iodé sur la langue. Nourrie de ce précieux sel fin, elle désirait devenir l'un d'entre eux, développer nageoires et branchies, prendre queue de sirène, s'enfoncer dans la nuit noire des abysses, respirer l'eau. Oui, à choisir entre les éléments, elle était du monde de l'eau, de la pluie fine qui pleure sur les visages et mouille les chevelures, mais aussi les eaux douces de la Rhônelle et plus encore de cette haute mer où se reflètent, dit-on, les étoiles du ciel. Marguerite était une ondine. Elle avait entendu le souffle de l'ailleurs. Le père de Marguerite était à la tête de la Corporation des tailleurs de pierre. Il lui avait appris, tout comme ses frères, à faire corps avec sa ville. Valenciennes, capitale du comté du Hainaut, au carrefour de la mer du Nord, des forêts des Ardennes et de la plaine des Flandres. Une ville marquée dans sa mémoire par le feu, la famine, la peste et les inondations. Ses habitants se savaient toutefois protégés par le ciel. Marie, la mère de Dieu, n'avait-elle pas ceint la cité d'un cordon pour empêcher l'épidémie de l'atteindre en son cœur? Si Valenciennes avait fait l'expérience de la mort, elle avait plus encore goûté à Amour, dont le miracle affranchit de la mort. De fait, les épreuves cruelles du destin n'avaient pas refermé Valenciennes sur elle-même. Chaque deuxième dimanche de septembre, la ville reconnaissante faisait en procession le tour de son cordon pour remercier Marie de son intercession. Ouverte à son prochain, elle accueillait l'étranger dans l'enceinte de ses murs pour écouter la parole étrange de l'ailleurs. Les langues s'y déliaient pour colporter l'inconnu et les idées nouvelles. Les écus s'échangeaient, tout comme les savoirs, pour construire des lieux au pouvoir, au commerce et à la prière. Le père de Marguerite faisait partie de ceux qui transmettent ce qu'ils savent. Il avait choisi d'enseigner la pierre à ses fils et l'histoire sainte à sa fille. La Bible pour Marguerite, c'était donc les genoux de son père qui en connaissait les visages pour les sculpter sous les porches des églises. C'était aussi ce livre, entreaperçu sur le lutrin les jours de grandes fêtes, que tous se disaient saints et entouraient du plus grand des respects. Entre David, Esther et Salomon, elle connaissait sa chance. Son père savait que ses vies de berger, de reine et de roi sage sont un grenier à grains. Mieux, une terre ensemencée pour récolter des moissons essentielles. Il désirait nourrir sa fille, non de paille, mais de grains. Fête après fête, Marguerite apprenait donc à désirer les lettres. Mais elle préférait écouter, comme elle écoutait la rivière. L'histoire sainte n'avait pas la même texture et la même tessiture quand le livre se montrait à elle couvert d'enluminure ou quand elle prenait vie dans la voix de son père. Elle écoutait alors les images qui s'échappaient de ses lèvres. Ses présences, ses gestes et ses paroles, tout empreint de sainteté. Elle était portée et emportée par ces silhouettes d'hommes, de femmes et d'enfants dans leurs montagnes, leurs déserts, leurs palais, leur exil. Elle rêvait, elle voyait, elle vivait. Elle entendait et elle comprenait. Si sa mère la laissait se baigner dans les eaux vives de la Ronelle, son père la nourrissait de cette histoire sainte. Le cœur de Marguerite balançait souvent entre les deux. Elle avait comme deux livres ouverts devant elle pour la guider sur les chemins de la vie. Celui de la rivière, ruisselant de lumière, et celui de la Bible, riche en grains de prière. Elle apprit à se baigner dans l'un et dans l'autre, à se nourrir de l'un et de l'autre, à écouter l'un et l'autre. Tous deux avaient un parfum qui lui montait à la tête, ce parfum si précieux d'amour. Marguerite était fine, très fine. Fine comme les fines herbes, la pluie fine, les tissus fins. Et ce, depuis toujours, dès sa plus jeune enfance. Ses frères lui disaient qu'elle avait un museau de souris et ils cueillaient pour elle des fleurs de myosotis, ses oreilles de souris, dans les champs. Marguerite ne cessait en effet d'écouter, de sonder, de scruter au plus profond des cœurs. Semblant tout comprendre, sans poser de questions, devinant les désirs qui germaient en silence dans le fort intérieur de chacun. Comme une souris, elle se glissait par toutes les fentes et toutes les ouvertures, même les plus étroites. Celles par lesquelles entre seule la lumière. La lumière et l'amour. La lumière d'amour. Le soir, sur sa couche, elle se laissait envelopper par les poutres du grenier qui lui servait de chambre et par la nuit qui entrait par la petite lucarne. Elle savait que dehors, le ciel était étoilé, que la lune croissait lentement jusqu'à sa plénitude, que les constellations faisaient leur ronde dans les pupilles dilatées des chats et le ululement des chouettes. Les images de la journée se bousculaient dans sa tête, comme sa mère à son étal de drap. Elle les ordonnait calmement, circulant et cheminant dans des paysages intérieurs, y dessinant des allées, des plates-bandes, des bordures, des fontaines, cultivant le jardin de son âme. Elle se remémorait un à un les visages des marchands, pèlerins et vagabonds rencontrés en ce jour, des visages aux plus intimes desquels elle avait plongé malgré elle. N'ayant pas peur des défenses, elle s'approchait toujours au plus près des personnes connues ou inconnues, et traversait ces remparts de pierres et d'arquebuses dont les hommes apeurés s'en serrent, pénétrant sans le vouloir jusqu'à la moelle de l'os. Parvenant à cette chambre intérieure, au seuil de laquelle elle s'arrêtait toujours, librement, par respect. Elle savait que chacun résonnait en cette chambre d'une musique vivante, la musique de son âme. Et c'était cette harmonie, ce fin silence qu'elle écoutait au fond des êtres. En elle aussi, la vie jouait une musique. Fascinée par les spectacles de rue avec leurs singes, leurs chiens et leurs musiciens, elle imaginait son âme semblable à un luth avec ses cordes, son bois, sa caisse de résonance. Chaque soir, elle écoutait le son en elle jusqu'aux confins du silence. Centrée sur elle-même, elle tournait son attention de son enveloppe de chair à ce vide intérieur où résonnait la vie. Elle lâchait prise sur le plein pour plonger dans le vide, un vide qui mène au tout. Elle savait que ce n'est pas seulement le bois qui fait musique, mais aussi cette caisse de résonance. Elle prenait soin de ce vide intérieur, sans s'encombrer de rien. D'où lui venait cette finesse d'attention? Peut-être des heures passées avec les truites, les libellules, les ragondins, les grues cendrées. Par ces jeux de l'enfance, elle savait que les créatures se guettent et s'écoutent autour d'elle, qu'elles se cherchent à tâtons, veillant à leur respiration commune, qu'elles chantent et se répondent pour qui a l'oreille suffisamment fine pour entendre leur souffle dans le plus fin silence. En fille de la Ronelle, elle se savait sujet d'un royaume, le royaume du vivant. À l'âge de 12 ans, cet âge du premier sang où les filles deviennent jeunes filles, elle fut éblouie par la souveraine, reconnaissant en elle la reine de ce royaume qui semblait échapper à l'attention des hommes. Ce fut d'abord deux mains à l'étal de sa mère qui vendait un nouvel arrivage en provenance du sud. Deux mains gantées qui ne se découvrirent que pour caresser les coupons de lin, en apprécier la qualité du tissage et la perfection de la teinte. Deux mains, fines et blanches, d'où rayonnait un grand silence. Deux mains, prévenantes et aimantes, qui s'y connaissaient en tissu. Comme si toute l'attention de cette femme au manteau noir avait reflué au bout de ses 10 doigts. Une femme de simples mains. Et parce que ses 10 doigts avaient surpris l'émerveillement de Marguerite, celle-ci vit se pencher sur elle un visage et un sourire radieux. La souveraine la salua de ses yeux qui irradiaient de lumière et de joie. Dès ce jour, Marguerite prit l'habitude de rendre visite, derrière les murs du béguinage, à la souveraine. Elle franchissait le porche, ouvert dans la journée, et traversait la cour avec son vieux tilleul pour gagner la maison de la maîtresse des lieux. La souveraine l'accueillait avec un verre de lait, une tranche de pain et un regard complice. Comme les chevaux et les chats, elle se reliait d'emblée à ce qui, en Marguerite, se faisait toute écoute. « Tu as un cœur en or, » lui disait la béguine. « Laisse-moi te prendre, non par la main, mais par l'oreille du cœur. » La souveraine se mit à lui enseigner lecture et écriture. Elle lui apprit patiemment à tourner son attention non plus au seul frémissement du vent dans les herbes de la Ronelle, mais aux lettres qui recueillaient en elle le souffle des paroles de la vie éternelle. Marguerite, si fine, était bouleversée dans sa vie intérieure. Elle découvrait que les eaux vives de la Ronelle coulaient aussi du cœur transpercé du Christ. Que Jésus chantait la rivière. Elle se mit à relier le passé au présent, la Terre Sainte à sa ville de Valenciennes, tendant l'oreille aux échos d'une voix lointaine dont l'autorité était un vrai mystère. Marguerite grandit ainsi de corps et d'âme entre deux mères. Sa mère naturelle vendait des draps sur le marché, prenait soin de son corps et la laissait se baigner nue dans les eaux vives de la Ronelle. Sa mère spirituelle l'instruisait en sagesse, prenait soin de son âme et l'initiait à ce royaume du vivant ignoré de certains. Deux mères, pour présider à sa nouvelle naissance, pour lui permettre d'accoucher d'elle-même, de tout son être. Un jour, de grande lumière, inspirée par la gratitude, Marguerite prit la main de la souveraine, la retourna et regarda les lignes dans le creux de sa paume. Elle, qui était roturière, elle y reconnut un lignage, un haut lignage. Celui de cet ailleurs et de ce large que chantait la Ronelle. Elle sut, surtout, qu'elle était de la même lignée. Celle de l'ouverture du cœur, de l'attention au vivant, de l'écoute et de la résonance intérieure. Elle venait de découvrir la noblesse d'âme. La noblesse d'âme est un don de naissance et une dot de mariée. En noble dame, dotée de noblesse d'âme, Marguerite, la roturière, comprit qu'elle était parée pour les noces. Mais pas n'importe quelles noces. De vraies noces, d'eau vive. Dès l'âge de 15 ans, cet âge où la chair des jeunes filles suscite des jeux d'alliance entre belles familles, Marguerite choisit de rejoindre les femmes du béguinage. Tout juste sortie de l'enfance, elle ne pouvait prendre son bâton et partir sur les routes pour atteindre le rivage où la terre rencontre la mer. Suivre seule ses marchands, pèlerins et vagabonds, mendier chaque jour son pain. Elle décida donc de franchir le porche du béguinage et de marcher dans les pas de celui qui ouvrait un chemin vers l'ailleurs, suivre en vérité Jésus-Christ. Ce n'est pas l'amour d'un homme qu'elle allait conquérir, mais Dieu qu'elle allait capturer par amour. Elle prit sa décision une nuit d'été, en voyant dans le ciel, la tête à sa lucarne, une pluie d'étoiles filantes. Ces étoiles qui filent comme la laine, les plus belles destinées, et qui transforment les herbes en élixir de vie. Cette nuit-là, s'abandonnant à un sommeil profond, elle se rêva chevauchant un bel étalon blanc, longeant une rivière, sautant tous les obstacles. Marguerite vit en ce rêve une promesse, celle d'une puissance qui se donnerait à elle, se pliant à ses ordres, la servant en épouse royale, si elle-même était prête à servir l'univers, assumant son lignage, honorant sa noblesse. La lumière d'une étoile filante s'était penchée sur elle. Marguerite était comme drapée dans sa traîne, drapée de joie et de divinité. Faisant fi de tous les marchandages, Marguerite se dénuda donc pour se vêtir de ce seul nom de béguine. Elle savait que dans cette nudité de chair se trouvait son chemin de femme, son chemin sur la terre, son chemin dans la vie. Elle voulait, nue, épouser ce vent marin, ce souffle du grand large, ce bruissement d'air vif dont elle percevait le royaume dès sa plus jeune enfance. En rejoignant les femmes du béguinage, elle pourrait rester là, au cœur de Valenciennes, tout en partant ailleurs. Descendre enfin, bien au-delà du cordon de la ville, le cours de la Ronelle. Le béguinage ne faisait pas communauté de vœux. Les béguines n'œuvraient pas en commun. Mais elles vivaient l'une près de l'autre, l'une séparée de l'autre. Elles étaient libres. Libres de leur temps, de leurs gestes, de leurs pas. Libres de leurs occupations et de leur chemin. Marguerite savait qu'il lui fallait vivre ainsi, libre de toute attache. Ne pas s'attacher à un lieu, à un piquet, à un point fixe, mais s'arrimer au plus mouvant. À cette puissance de vie, de sagesse et d'amour dont lui avait parlé la souveraine. Fille de la Ronelle, elle était femme d'arrimage. Ondine, elle serait la vivante et la sage. Mieux, l'amante et l'aimée. Prenant avec elle un coffre de bois pour seul mobilier, Marguerite franchit donc en reine le porche du béguinage.
Come alone.